Bonjour et bienvenue dans le podcast Marketing Mania. Aujourd'hui, je parle avec Léo, qui est le créateur de la chaîne YouTube Les Philogynes, où il parle de psychologie et de séduction. Léo est psychologue de formation et il gagne sa vie en proposant des coachings. Dans cet épisode, vous allez comprendre quel est le processus qui marche pour trouver des clients de coaching. Et vous allez voir que, et c'est ça qui est très intéressant avec l'expérience de Léo, c'est que lui, il a commencé à vendre du coaching avant même d'avoir un site internet, une chaîne YouTube, avant même d'avoir une présence sur le web. En fait, Léo, c'est quelqu'un qui a commencé à faire du coaching comme un vrai coach, c'est-à-dire en allant parler à ses clients et en aidant les gens à résoudre des problèmes. Et c'est comme ça qu'il a pu découvrir leurs besoins profonds et qu'il a pu utiliser ses besoins profonds pour créer son contenu. Et bien souvent, je vois beaucoup de gens qui font l'erreur inverse, qui est d'essayer de créer un système passif, automatisé pour avoir du revenu qui tombe dans leur compte en banque avec des super tunnels de vente, avec des super produits qu'ils ont fait tout seuls dans leur chambre sans parler à aucun client. Et je pense que le processus suivi par Léo, qui est de commencer par aller parler aux clients et de comprendre un peu, discuter avec eux, faire du coaching, le coaching, vous êtes payé pour faire de la recherche client, c'est une bonne manière de commencer. Et on va aller avec Léo dans les détails de ce processus, c'est-à-dire quand il a le contact avec un client, quand quelqu'un exprime un intérêt, quelles sont les questions qu'il va poser lors d'un premier appel pour, numéro 1, comprendre les besoins, numéro 2, comprendre son offre et essentiellement, quel est son pitch de vente au téléphone pour arriver à créer cette vente. On parlera de comment se différencier dans un secteur concurrentiel puisque Léo opère dans le secteur de la séduction sur YouTube. C'est un secteur qui est extrêmement concurrentiel. Et non seulement cette concurrence ne l'a pas empêché de développer une chaîne YouTube avec plus de 20 000 abonnés et qui lui permet de vivre, ça l'a essentiellement aidé parce qu'il a pu, dès sa première vidéo, se poser en contre-pied de ses concurrents et vous allez voir comment faire pour utiliser la même stratégie, quel que soit votre marché, pour mettre le pied dans la porte sur un marché qui vous semble, vu de l'extérieur, blindé de concurrents. Et finalement, on parlera de comment créer une tribu autour de votre entreprise. On parlera de marketing tribal. On parlera de comment est-ce que vous faites pour communiquer avec les gens de manière beaucoup plus profonde que leur donner de simples conseils. Comment est-ce que vous pouvez créer autour de votre entreprise, autour de votre produit, autour de vos idées, des croyances qui sont profondes, qui vont être ancrées dans l'identité des gens et qui vont leur donner envie de vous soutenir, de vous défendre au-delà du fait que vous leur donnez des conseils qui sont utiles dans leur quotidien. Comment est-ce que vous créez une vision, une philosophie à laquelle les gens peuvent adhérer, ce que ça veut dire, et on verra en détail l'étude de cas de Léo, comment est-ce qu'il en est arrivé là, comment il se situe dans l'écosystème, comment est-ce qu'il découvre de quoi parler, comment est-ce qu'il parle à ses abonnés et pourquoi est-ce que les gens sont aussi fans de son approche. Sur ce, sans plus de transition, je propose d'écouter ma conversation avec Léo des Philogynes. Salut Léo et bienvenue sur le podcast.
Salut Stan, je te remercie.
Est-ce que tu peux commencer par mais présenter un peu ce que tu fais pour les auditeurs.
Alors, moi, en fait, je suis diplômé psychologue, déjà. Et ça fait depuis 2 ans que je fais des vidéos sur YouTube où je parle de psychologie, de séduction, de créativité, d'intelligence émotionnelle. Et mon activité, en fait, c'est de vendre des formations pour développer sa chat, pour développer sa créativité, pour devenir bon en séduction. Et c'est des formations que je fais donc la plupart du temps sur le terrain. C'est-à-dire qu'on va, ensemble aborder des filles dans la rue et on va, entre guillemets, s'entraîner avec les filles à développer notre chat, un petit peu comme on pourrait le faire dans un théâtre d'impro, en fait, comme on pourrait le faire dans un groupe de théâtre d'impro. Et à côté de ça, donc j'ai aussi un club, le club des Philogynes, qui consiste en un forum avec des réunions qu'on fait de manière hebdomadaire. On fait une réunion tous les mardis soirs par Discord, on fait des réunions en physique, et voilà, ça c'est le club des filles. Et il y a un forum, pardon. Voilà, il y a un forum où on essaye à la fois de se cultiver en psychologie. On parle évidemment beaucoup de femmes, mais pas que. On parle de psychopathologie, on parle de psychologie évolutionniste, on parle de psychologie de la personnalité. Et on essaye aussi, d'un point de vue plus concret, de devenir bon avec les femmes, de devenir bon en séduction.
Tu as parlé de, en gros, là il y a 3 trucs, une chaîne YouTube source de trafic principale, c'est ça?
Voilà, c'est ma seule source de trafic, je dirais, avec, avec Twitter éventuellement.
Et derrière, tu as deux moyens de monétisation. Tu as le club, donc c'est un abonnement payant à 15 euros par mois.
Voilà.
Et le coaching. Tu peux nous donner une idée de quelle est la répartition de tes revenus entre le club et le coaching pour avoir une idée générale?
Bah, la grosse majorité, c'est les coachings. Alors, je dis coaching, soit dit en passant, parce que je n'ai pas trouvé de mot meilleur que ça. Mais coaching, si tu veux, on pourrait inclure dedans des... Il y a ce que j'appelle des consultations psycho. Donc, on va échanger pendant 1h30, par exemple, sur un sujet de psychologie. Ça peut, j'ai même rencontré des femmes comme ça. Donc ça, on va l'inclure dans les coachings. C'est toutes les rencontres que je fais avec mes clients, en fait. Et il y a évidemment ce qu'on pourrait appeler coaching en séduction, ce que les gens appellent coaching en séduction, pour que ce soit plus clair, où là, comme je disais, on va aller sur le terrain pour développer sa créativité, sa chat, par des exercices pratiques, et où il y a un suivi dans lequel je donne des exos pour continuer à développer ça à distance. Et ça, c'est la majorité de mes revenus. C'est peut-être, pour être concret, ça devrait être 80% de mes revenus.
Okay. C'est quoi ton tarif en coaching?
Alors ça, je peux pas le dire. Je le dis jamais publiquement, parce qu'en fait, je veux vraiment insister sur le fait que c'est justement une formule par personne, en fait. J'ai pas vraiment de formule type, si tu veux.
Alors du coup, tu fais un devis pour chaque personne. Comment est-ce que ça marche?
En fait, c'est hyper artisanal. Ça veut dire que chaque personne qui m'envoie une demande de coaching sur mon forum, sur mon site internet, tu as deux onglets. Tu as intégrer le forum, intégrer le club des Philogynes et recevoir une demande de coaching. Et dans chacun de ces deux onglets, tu as un formulaire pour que j'apprenne à te connaître.
C'est quoi le genre de questions que tu poses dans le formulaire?
Dans le formulaire coaching, je vais demander ton parcours, notamment en matière de séduction. Je vais demander des infos factuelles aussi concernant ce que tu fais dans la vie, ton âge, ton prénom, ton numéro de téléphone, évidemment. Et puis après, je vais te demander quelles sont tes forces et tes faiblesses dans le développement personnel. Qu'est-ce qu'un coaching idéal pour toi? Pourquoi avoir fait appel à moi? Ce genre de choses. Et moi, si tu veux, avant d'appeler chaque personne, je passe 5 minutes à lire leur demande, en fait, à vraiment m'imprégner du truc. Ça me donne déjà, moi, des infos pour savoir un petit peu quel type de formule je peux leur proposer. Et ensuite, ça me permet de poser les bonnes questions aussi au téléphone. Donc, c'est des coups de téléphone, c'est des coups de fil qui peuvent me prendre... entre une demi-heure et une heure. Mais à l'issue de... Et voilà, et c'est à la fin, en général, ils demandent directement les tarifs. Je dis non, mais en fait, ça va dépendre vraiment de ce que tes objectifs, de ta manière de bosser, de ta personnalité, de tes... Voilà. Et à la fin, je propose une formule qui est propre à lui, quoi.
Ok. Et dans ce cas-là, la personne te contacte par le formulaire. Toi, tu lui téléphones directement ou est-ce qu'il prend rendez-vous avec toi pour un appel? Ça fonctionne comment techniquement?
Non, ça se fait. Il m'envoie son téléphone, j'envoie un texto, je lui dis. En général, je fais mes appels le soir. Donc, je lui demande s'il serait disponible ce soir à 20h30 pour un appel. Je fais ça le soir parce que les gens, forcément, ils travaillent. Hein, donc, on fait ça au moment où ils sont disponibles.
Tu dirais qu'il y a combien de personnes qui te contactent dans un mois pour le coaching?
Par semaine, déjà, il y en a entre 5 et 10. Entre 5 et 10 personnes. J'ai regardé les tableaux tout à l'heure. 5 et 10 personnes par semaine, donc fois 4 par mois. Donc, on pourrait dire à peu près une cinquantaine, un peu plus d'une cinquantaine, quoi. Sachant que toutes les demandes de coaching ne sont pas converties en coaching.
Tu dirais que c'est quoi le pourcentage de personnes qui finissent par prendre un coaching finalement?
Je dirais que c'est la moitié, parce que tu as beaucoup d'étudiants en fait qui n'ont clairement pas les moyens. Et du coup, maintenant je le sais, donc j'arrive à faire des appels un peu rapides. Mais c'est surtout, je dirais la moitié à peu près. Ouais.
Ok. Et pour ceux qui ne sont pas étudiants et qui ont le budget, est-ce que tu as un processus particulier que tu suis pendant ton appel afin de, tu vois, pas un script nécessairement de vente, mais tu vois, un process de vente, ou est-ce que c'est vraiment à l'instinct?
C'est purement à l'instinct, en fait. Je suis absolument pas quelqu'un d'organisé. Alors déjà, dans la séduction, j'étais pas foutu de suivre une trame. Alors je peux te dire que dans la vente, c'est pareil. Donc non, moi, j'ai une ligne, si tu veux, j'ai une ligne directrice. Ça veut dire, ma ligne directrice, c'est je fais parler l'autre. Je fais parler l'autre le maximum, je chope le maximum d'informations. Je lui demande, c'est des questions en fait, donc je lui demande, c'est des questions ouvertes. Je lui dis, qu'est-ce qui t'a plu déjà dans la philosophie Philogene? C'est important de comprendre pourquoi les gens te contactent. Je lui refais verbaliser aussi pourquoi il m'a contacté, parce que ça le fait parler. Ça me permet moi de rebondir sur les éléments qu'il va me donner, sur les informations qu'il va me donner, lui poser des questions plus précises. C'est de comprendre vraiment, en fait, mon but, c'est vraiment de comprendre c'est quoi dont il rêve, en fait. C'est quoi dont il rêve? Quelle est la formation idéale pour lui, en fait? Parce qu'il y a il y a vraiment des trucs différents. Il y en a, par exemple, qui ne me contactent pas forcément pour les filles. J'ai des gars qui me contactent parce qu'ils veulent être bons en entretien d'embauche. Et ils ont très bien compris le lien entre la séduction, séduire une inconnue et séduire un recruteur. Il y en a, ils me contactent parce que c'est des ingénieurs et ils veulent devenir commerciaux. Il y en a qui me contactent parce que c'est purement pour développer leur chat. Enfin, tu vois, il y a plein de domaines. Donc il faut vraiment arriver. Il faut pas. C'est ça le problème, c'est de ne pas avoir de préjugés sur les gens quand ils t'appellent. De pas s'imaginer, de pas penser pour eux quels sont leurs problèmes, tu vois, et de vraiment essayer de comprendre ce qui se cache derrière la demande. C'est pas si il y a vraiment plein, les demandes sont vraiment hétérogènes en fait.
Et une fois que tu as posé toutes ces questions et que tu as découvert les besoins de la personne, ce qu'il veut, comment est-ce que tu passes de cette phase de questionnement à une phase où tu vas présenter ton offre? Qu'est-ce que tu utilises comme terme ou comme transition pour pouvoir faire OK, bah maintenant voilà ce que je te propose?
Bah en fait, on va identifier un problème ensemble. Je vais essayer de... Bon, après, je suis un psychologue, donc j'ai tendance à catégoriser. Donc je vais essayer de le catégoriser dans les différentes demandes que je peux avoir. Et je vais reformuler son problème. Je vais dire, voilà, je pense quel est ton problème et voilà la solution que j'aimerais apporter. Qu'est-ce que tu en penses? Par exemple, je vais te donner un exemple. Un gars qui... celui-là, ça peut être un peu cliché, mais un mec qui a terriblement peur d'aller parler à une inconnue, qui a terriblement peur d'aller parler à une femme dans la rue ou à une inconnue, peu importe dans quel domaine, je vais dire, eh ben, c'est pas compliqué. Pour moi, la solution, c'est la méthode des petits pas. Donc, on va faire ça, petit pas par petit pas. Donc, on va y aller ensemble. Après, on va utiliser des phrases presque neutres, très lambda. Et puis petit à petit, on va faire des approches classiques, et puis après, on va faire enfin des approches créatives. Bon, ça, c'est un peu le jargon Philogene, mais...
Ouais, tu vois.
C'est une manière de répondre aux besoins, par exemple, qui est d'avoir peur d'aller parler aux filles.
Et dans ce cas-là, si lui dit « Ouais, moi, ça m'intéresse ce que tu me dis », comment est-ce que tu l'amènes au prix, ou comment est-ce que tu amènes ton tarif
Alors, sans aucune transition ni intro, alors, en général à la fin par contre, voilà, c'est un peu ça le truc, c'est que je fais un long appel, ça dure très longtemps, c'est comme je te dis, en général une demi-heure, parfois une heure, et c'est à la fin, tout à la fin que le prix tombe, au moment où j'annonce vraiment factuellement, on va faire tant de séances, ce sera des séances de tant d'heures, il y aura tant de suivi, il y aura tel document que je vais te donner... On va faire soit du binôme, soit ensemble, soit tous les deux. Le contenu des séances sera un peu comme ça. Et c'est ça, voilà mon tarif. Et après, je laisse un blanc et je lui dis, moi je laisse un blanc, hein, je n'ai plus rien. Et s'il répond pas, je dis qu'est-ce que t'en penses. Voilà. Je lui demande qu'est-ce que t'en penses, qu'est-ce que tu penses de cette formule-là. Et le truc, voilà, très important aussi, et c'est pour ça que je veux pas mettre de formule sur mon site internet. Je lui dis, en fait, là, ce que je vais te proposer, en fait, c'est une c'est une formule Lego, en fait. Ça veut dire que je te propose que moi je pense être le meilleur pour toi. Après, libre à toi de rajouter des éléments, d'en enlever en fonction de tes objectifs, mais de ton portefeuille aussi. Voilà, c'est le but, c'est pas de te ruiner non plus. Donc si tu considères que c'est trop cher, on peut enlever certains éléments. Par contre, Moi, je pense que ce que je te propose là, c'est ce que je considère être le meilleur pour toi.
Ça t'arrive d'avoir des gens qui essayent de négocier tes prix ou de contester les tarifs?
Non, parce qu'en fait, s'ils veulent négocier, bah, je leur dis, bah, dans ces cas-là, on enlève des séances. On retire des séances, on retire... Tu sais, il y a plein d'éléments, donc on retire les séances, ou alors on diminue le suivi, ou alors on fait du binôme, ou alors on enlève certains documents. Donc il y a toujours une solution. Mais je ne vais pas négocier, par contre. Ça, je refuse de négocier. Je sais pas si c'est une erreur, mais par principe, j'ai toujours refusé de négocier. C'est comme si j'ai l'impression que ça serait comme si je bradais mes formations. Comme, tu vois, je trouve ça un peu d'estime, quoi. Faut avoir un peu d'estime pour ce qu'on vend, quoi.
Non, c'est intéressant, notamment parce que je baigne actuellement dans ces questions. Je suis en train de bosser sur un projet qui est à destination des gens qui font du coaching et qui sont freelance. Et c'est intéressant parce que toutes les questions que je t'ai posées là, en fait, c'est des questions que les gens se posent, tu vois. Et comment est-ce que tu mènes cet entretien et comment est-ce que tu qualifies les gens, etc. Toi, c'est quelque chose... Comment est-ce que tu as appris à faire ça? C'était venu naturellement de par ta pratique ou tu l'as développé au fil du temps? Est-ce qu'au départ, tu avais en place un process qui était différent?
Ah ouais, totalement. Alors moi, j'ai eu la chance de commencer super tôt, comme je te disais tout à l'heure. J'ai commencé à 19 ans. Donc à 19 ans, j'ai commencé à rencontrer des gars pour leur proposer mes formations. Et il faut savoir qu'à l'époque, j'avais ni site internet, ni chaîne YouTube, et j'avais même pas de témoignage en fait. Et en fait, ce que je devais faire, c'était de persuader la personne, de la rassurer dans un premier temps, de la rassurer, de lui montrer que j'étais capable de faire ce que je suis capable de faire. Parce que la chaîne YouTube, pour un mec qui parle de séduction, c'est aussi un moyen de dire, vous avez vu les gars, ce dont je vous parle, je suis capable de l'effectuer. Et moi, il fallait que je le fasse à chaque fois en temps réel. Mais bon, ça c'est autre chose. Et après, il fallait que je le convainc, donc sans être soutenu par la chaîne YouTube et le site internet.
Donc eux, tu les rencontrais comment?
Ah bah ça c'est... En fait je l'ai rencontré en faisant de la prospection sur des forums. Et ça je ne l'ai jamais dit publiquement, maintenant je m'en fiche, je ne le fais plus donc je peux le dire, mais j'allais sur des sites comme Art de Séduire, comme French Touch Séduction, comme d'autres, parfois même privés. Et en fait ce que je faisais c'est que j'avais toute une procédure en fait, donc je guettais les présentations. Je faisais des recherches aussi par rapport aux villes. Il fallait que je trouve les mecs qui étaient sur Paris, vu que moi j'étais sur Paris. Et dès que je voyais un gars sur Paris qui semblait avoir envie de se lancer dans la drague de rue, qui avait peut-être besoin d'un coup de pouce, je le contactais. Et je le contactais toujours de manière artisanale. C'est-à-dire, j'avais jamais de message. Ça, c'est une grosse connerie. Il faut jamais faire des messages copier-coller. Et je lui disais évidemment pas que j'étais coach ou que je faisais des coachings, que j'étais psychologue, je pouvais le dire, c'était l'avantage, je pouvais parler de la psycho. Mais... Donc je lui disais, voilà, écoute, je viens de lire ta présentation ou je viens de lire ton post sur le forum et j'ai remarqué que tu disais ta-ta-ta, si je peux me permettre, je te conseillerais plutôt de faire tac-tac-tac. Écoute, en ce moment, il m'arrive souvent de sortir draguer dans la rue. Je vois que ça avait l'air de te motiver. Si tu veux, tu es le bienvenu, tu peux te joindre à moi. Moi, j'ai un petit niveau là-dedans, ça fait quelques années que je fais ça, mais c'est toujours plus sympa de partager ça avec un débutant. Donc voilà, si tu es intéressé, je disais en général, si tu es intéressé, envoie-moi ton numéro. Donc je ne faisais pas de forcing, je n'envoyais pas de mon numéro de force. Voilà, c'était une petite proposition comme ça, avec un message personnalisé. Et j'en rencontrais un ou deux par semaine, comme ça. J'avais un autre moyen de rencontrer aussi. Je vais livrer tous mes secrets, mais j'allais... Je ne sais pas si tu connais OVS, On va sortir.
Ah non.
OVS, c'est une plateforme, c'est un site qui te permet de rencontrer d'autres personnes dans ta région pour faire des activités ensemble. Donc ça s'adresse souvent à des gens qui sont un peu seuls, qui ont envie de faire des amis, créer des liens, ou des gens qui viennent d'arriver dans la ville. Et en fait, il y avait des restaurants OVS où tu avais une trentaine de personnes qui se retrouvaient, majoritairement des hommes, donc ça m'arrangeait. Et moi, j'allais dans ces restaurants-là. Et je tchatchais les gars et je leur tout doucement j'amenais le fait que on commençait par parler de femmes. En fait, j'amenais la conversation à d'abord parler des nanas. Je leur disais alors ça se passe comment avec les filles. Hein? Deuxième étape, je leur parlais de, je leur disais que moi ça m'était déjà arrivé de draguer un peu dans la rue. Et ensuite, je faisais le parallèle avec la psychologie. Je disais voilà ce qu'on, je faisais, j'apportais mes explications psychologiques à pourquoi il y avait telle stratégie qui marchait mieux que d'autres, comment il... et puis j'ai essayé de vendre la drague de rue, parce que la drague de rue, c'est très connoté négativement, surtout quand tu dis ça comme ça, drague de rue. Là, j'utilise ce mot-là pour que ce soit plus clair, mais c'est très connoté. Et...
Tu utilises quel terme avec ton audience pour le désigner ?
Bah, moi, je te dirais, on va... C'est... J'ai pas encore trouvé un terme exact. Dans le forum, on dit qu'on va, on va faire des approches créatives. Pour développer, okay. Voilà, les approches créatives, et c'est ce que je fais sur YouTube, sont des approches créatives, et la finalité, c'est de développer la tchatch par la créativité, en fait. C'est pas que du marketing, c'est pas juste pour contourner le stéréotype négatif lié à la drague de rue. C'est réel, c'est vraiment sincère, ce qu'on fait là. On est plus amoureux aujourd'hui de l'improvisation, de la entre guillemets performance artistique, plus que des nanas qu'on peut séduire avec ce type d'approche. Et donc alors concernant donc la prospection, et donc voilà, donc ces mecs sur OBS, après je prenais leur numéro et je leur proposais, après j'essayais d'en voir un ou deux en même temps, comme, enfin deux ou trois en même temps, comme ça permettait de gagner un peu de temps, et je leur proposais de venir avec moi voir ce que c'était, voir ce que je leur avais vendu à l'oral, leur dire ben non c'est possible, je peux le faire. Et des fois ce que je faisais même c'est pour te dire à quel point ça allait loin, c'est on avait la pause clope, et durant la pause clope, en fait, je m'efforce. Déjà, je les poussais à faire une pause clope pour que durant la pause clope, je puisse leur faire une démonstration, en fait. Et alors, quand ils avaient vu la démo, ils étaient, si je m'étais pas pris de râteau, ils étaient trop chauds. Ils voulaient continuer, ouais. Ils voulaient qu'on se revoie et puis que je leur montre comment je faisais.
T'as fait du guérilla marketing de luxe, quoi. C'est pas mal, c'est assez ouf.
Du coup, c'est ce que je te disais tout à l'heure, je les connais super bien, mes prospects, en fait. Pendant des années, j'ai fait ça. J'ai réellement, tu me demandais comment j'ai appris à vendre, bah, je crois que j'ai appris à vendre comme ça, en fait, tout simplement, parce que moi je sors de, c'est pas en fac de psycho qu'on t'apprend à vendre quoi que ce soit, au contraire, mais moi c'est clairement sur le terrain, c'est en faisant ça pendant des années, c'était une excellente école de la vie, j'ai envie de dire, et surtout j'ai, bah, dans ma tête je me constituais tout un dossier sur quels étaient les différents types de prospects, qu'est-ce qu'ils pensaient de la concurrence, pourquoi il y en avait qui aimait aller draguer dans la rue, pourquoi d'autres n'aimaient pas, parce qu'il y avait tous ces stéréotypes négatifs, justement. Et c'était ça la première chose, c'était de... Il fallait briser ces stéréotypes négatifs liés à la drague de rue, liés au coaching en séduction, tu vois, parce que ça véhicule plein de trucs négatifs, tout ça.
On peut parler un peu de comment est-ce que toi, tu combats ces stéréotypes, comment est-ce que tu présentes les choses de cette manière, et comment est-ce que tu te différencies globalement, parce que la séduction, c'est un domaine qui est... Il y a beaucoup de sites, il y a beaucoup de coachs, et toi, tu as réussi à trouver un peu ta place dedans. Comment est-ce que tu vois cette approche? Donc, il y a des deux aspects que tu peux traiter un peu comme tu veux, à la fois face aux stéréotypes un peu que les gens peuvent en avoir, ou au fait que bah, ça ne marche pas, etc. Et de l'autre part, le fait qu'il y a déjà beaucoup de gens qui parlent de ces sujets-là, qui sont arrivés avant toi de manière chronologique. Comment tu as fait pour trouver ta place dans ce contexte ?
Bah déjà, justement, j'ai utilisé ça à mon avantage, c'est-à-dire qu'il y a effectivement une énorme concurrence. Il y a beaucoup de... En fait, la barrière à l'entrée, elle est très basse. Il suffit d'être capable d'aborder une fille, de prendre son numéro, d'avoir un copain pour te filmer, et tu peux te déclarer coach. Tout le monde peut faire ça, en fait. Peu importe que tu sois bon derrière en coaching, que tu saches écouter les gens, que tu aies une bonne empathie, une bonne méthode, des bons résultats, peu importe. C'est très simple, c'est hyper simple d'accès. Ça l'était en tout cas avant que j'arrive.
Parce que t'as tout cassé.
Bah, je pense. On va voir, mais moi j'ai tendance à dire que j'ai un peu relevé la barre à l'entrée de deux manières. Ouais. La première, c'est qu'en fait, justement, comme il y avait tous ces mecs-là qui abordaient, qui faisaient des vidéos YouTube, et ben, il fallait trouver un moyen d'expliquer en quoi c'était de la merde, quoi. Pourquoi c'est de la merde? Parce que c'est chiant, en fait. C'est chiant à mourir. Ils font tous la même chose. Ils ont tous les mêmes types d'approches, la même trame, les mêmes phrases d'accroche. Très concrètement, hein. C'est « Hey, salut, je viens de te croiser, je vais venir te dire, je te trouve adorable. » Et il y avait un réel ennui. Je pense que les gens, ils étaient emmerdés à l'idée de voir ça, de continuer à voir ça. Et du coup, bah, qu'est-ce que j'ai fait? J'en ai fait un concept. J'ai appelé ça les clones de la drague. Et ça a été ma toute première vidéo. J'ai passé pas mal de temps à la travailler, cette vidéo-là, en plus.
Et dans cette vidéo, tu montes des extraits des autres vidéos et tu les mets en parallèle. Comment est-ce que tu fais? Parce que j'ai pas vu cette vidéo.
Cette vidéo-là, en fait, je fais déjà un constat. Donc, je dis, aujourd'hui, il y a des clones de la drague, en gros. Voilà, donc j'explique ce que c'est. Mmh. Et ensuite, je vais sur le terrain et je vais montrer ce qu'il en est. Ça veut dire que je suis allé sur le terrain, j'ai couru après une fille, je lui ai fait une approche type des coachs en séduction, genre « Hey, je viens de te croiser, nanana ». Et la nana m'a dit « Ah, mais on vient déjà de me… ça fait trois fois déjà qu'on me sort ce type d'approche ». Et ça, ça peut choquer, mais pour les mecs qui connaissent un peu certains coins de Paris, qui connaissaient un peu ce milieu-là, c'était devenu monnaie courante. Et ça n'a pas été si compliqué d'en trouver une qui me dit ça. J'ai fait deux, trois tentatives, rue de Rivoli, un soir de pointe, c'était limite trop facile, mais c'est pour montrer aux gens que vraiment, il y a cette approche-là qu'on vous enseigne, l'approche la plus connue de mes concurrents qui étaient les plus connus, elle est rouillée aujourd'hui. Elle ne fonctionne plus. Et vous allez, si vous l'utilisez, vous allez être catalogué dragueur 2.0, dragueur de l'internet, qui presque limite vous allez être catalogué, tu sais, dans ces émissions très humiliantes où tu vois un coach en séduction avec ses deux élèves qui il leur dit vas-y cours après elle, et vous allez être catalogué comme ça. Les nanas vont vous demander si vous n'êtes pas dans une émission pour tellement vrai ou je sais pas trop le nom de ces émissions, mais donc voilà. Donc je fais ce constat là, je leur mets un petit coup de pression, je leur dis que c'était pareil d'ailleurs avec ça a fait pareil avec certaines phrases comme « Ton père est un voleur, il a pris les étoiles, il les a mises dans tes yeux ». C'était le même principe, c'était des belles phrases au départ.
Ça, mais... ça a marché à une période, tu penses? Et en fait, aujourd'hui, c'est devenu un cliché de la phrase pourrie parce que ça a été surutilisé?
Parce que ça a été surutilisé, ensuite parce que ça a été utilisé par les mauvaises personnes en plus. Donc là cette technique-là, cette phrase-là, elle a été surutilisée et ensuite, elle est utilisée dans la tête des filles par les mecs qui... par des mecs qui ont besoin de conseils sur internet, et c'est pas très valorisant. Ouais. pour la fille ne trouve pas ça valorisant, quoi. Elle va te rattacher à pas à ce qu'il en est réellement, mais elle va te rattacher à ce stéréotype des émissions de télé, des entre guillemets des puceaux qui viennent voir des coachs. C'est un peu ça, hein, si je parle de manière crue. Et donc ouais. Donc je fais ce constat là et ensuite donc je le prouve avec un autre audio aussi qui est beaucoup plus poussé, où la fille elle donne encore plus son avis, c'est très intéressant. Et après j'apporte une solution et je dis ah oui non pardon, au début je fais un peu de storytelling, j'explique que moi mon but au départ c'était de ressembler à Hank Moody dans Californication. Et alors ça aussi c'est pas moi qui l'ai inventé, Hank Moody dans Californication, tous les mecs quand tu les écoutes ils te parlent de Hank Moody, tous les gars quand ils veulent draguer ils veulent tous être comme lui.
Mais t'en penses quoi alors de Hank Moody? Parce que moi, j'ai adoré cette série quand elle était diffusée sur Showtime.
Bah, elle est géniale. Parce qu'en fait, le mec, ce qui est génial chez lui, c'est qu'il n'a pas de trame, il aborde n'importe comment, il dit n'importe quoi, il se prend des râteaux, il fout des coups de poing aux gens dans la rue. C'est vraiment le balécouisme à son paroxysme.
Ouais.
Et c'est ça que voulaient les mecs. Les mecs ne voulaient pas être des petits écoliers de la séduction avec leur petite trame, leur petite phrase d'accroche toute faite, avec le petit coach derrière, tout ça. Ils ne voulaient pas ça. Ils voulaient être stylés. Et Hank Moody, il est stylé. Et donc, je donne cet exemple qui s'avère en plus être vrai. J'aimais bien aussi ce type-là. Toi aussi, tu vois, on a tous... je pense que tous les gars qui s'intéressent à la séduction, de toute façon, ils connaissent Hank Moody. Et donc, direct, quand tu parles de lui, bon, bah, les gens, ils t'écoutent plus parce que c'est un modèle qui leur plaît aussi. Donc, je faisais du storytelling par rapport à ça. Je fais le constat. Et ensuite, j'apporte la solution. Ma solution, c'est plutôt que d'apprendre des phrases stylées, apprends la compétence qui te permet de créer toi-même ces phrases stylées, à savoir la créativité. Et appelle, du coup, bah, qui sont les meilleurs pour développer la créativité? Ce sont les psychologues. Et je fais pareil pour l'intelligence émotionnelle et pour l'assertivité.
Ok. Donc, pour donner une idée au genre des chiffres, cette vidéo-là, les clones de la drague, elle est toujours aujourd'hui en trailer sur ta chaîne YouTube. Elle a 44 000 vues. Donc, ça a bien marché. Elle a marché tout de suite ou elle a marché au fil du temps quand ta chaîne a commencé à se faire connaître?
Non, elle a pas fait un buzz. Elle a pas fait un buzz à la Dollar Shave Club, hein. Mais elle a bien. Les gens avaient trouvé ça intelligent et c'était un discours rafraîchissant. C'était vraiment le mot que j'entendais souvent. C'est rafraîchissant, ça fait du bien, c'est nouveau. Et il y avait pas ce fameux commentaire que tu pouvais avoir dans sous beaucoup de chaînes YouTube qui se lancent dans la séduction. C'est encore une énième chaîne sur la séduction. Là, c'était ah ouais, d'accord, c'est nouveau. Là, ça pose les bases. Et j'ai cité aucun concurrent dans cette vidéo-là. Tu verras, j'ai cité personne, c'est volontaire. Et ce qui est cool, c'est que dans un des commentaires, il y en a qui citent des noms dans les commentaires, parce qu'ils ont très bien compris ce que je voulais dire en fait. Donc okay. cette vidéo, c'est vraiment la présentation de. C'est vraiment la présentation de mon concept Philogene. Et d'ailleurs, soit dit en passant, petite dédicace à toi, Stan. En fait, c'est toi qui m'as fait découvrir Dollar Shave Club. Et Dollar Shave ouais. Club m'a énormément inspiré pour cette vidéo. Sur pas mal de... C'est difficile peut-être à voir... C'est pas évident en quoi ça a pu m'inspirer. Mais déjà, il y a le côté... surtout le côté, je dirais, de montrer aux gens qu'on les prend pas pour des pigeons, tu vois. Que, tu vois, toi, t'es le malin qui va prendre son... T'es le petit malin qui va acheter son rasoir à $1 par mois et tu vas pas acheter des rasoirs avec des lames de toutes les couleurs, je ne sais quoi. C'était vachement inspiré par ce truc-là. Et pareil, le côté aussi David versus Goliath, tu sais, c'était... Ouais. Tu disais que c'était une vidéo qui avait fait 5 000 de... qui avait levé que 5 000 $ de fonds. Et qui au final a fini par détrôner, qui s'est fait racheter, je crois, par, je ne veux pas dire de conneries, mais par un grand
groupe. Ouais, par Unilever ou quelque chose comme ça.
Ouais, voilà, c'est ça.
Si je ne me trompe pas. Donc, pour contextualiser pour les gens qui n'ont pas suivi cette affaire-là, Dollar Shave Club, c'était une boîte américaine qui s'est lancée avec un service de rasoir sur abonnement. Donc, vous pouvez vous abonner. Et pour $1 par mois, vous envoyez vos rasoirs chez vous. Et ils avaient créé une vidéo de présentation du service qui était démente, ultra bien faite, très drôle et qui avait cartonné, qui était devenue virale et donc la boîte avait explosé. Et des années plus tard, ils ont du coup été rachetés par... Alors, on va voir ce que c'est, je suis en train de faire la recherche. Et j'avais fait sur ma chaîne une vidéo sur eux qui s'appelait La meilleure vidéo de vente du monde ou écrire un script qui vend quelque chose. C'est une de mes premières vidéos.
Elle était géniale cette vidéo. Ouais. Je te jure, c'est la première vidéo dont je me souviens de toi et ça m'avait énormément inspiré. Moi, j'ai pas lâché le gars. Du coup, j'ai regardé toutes ses conférences. Et puis au-delà même de l'aspect didactique, comment faire un pitch de vente, t'as aussi toute la personnalité du mec. Il s'est créé un personnage. Voilà, ça c'est un autre truc que j'ai appris, c'est que le gars est un personnage. C'est le personnage, le mec cool, accessible, qui a de l'humour, un peu presque charismatique en fait. Et c'est le mec simple, tu vois, c'est l'homme masculin simple. Et je trouvais ça, même moi, tu vois, je me rase même pas, j'avais envie d'acheter des lames de rasoir pour te dire à quel point c'est puissant.
Donc, ils se sont fait racheter pour 1 milliard par Unilever. Donc, c'est un gros, 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 gros succès, notamment sur la base de cette vidéo virale qui, du coup, vaut vraiment le coup d'être vue. Tu as parlé rapidement de tes concurrents, etc. Aujourd'hui, ça ressemble à quoi l'écosystème de la séduction sur YouTube? Et où est-ce que toi, tu te places dans cet écosystème?
Je pense qu'aujourd'hui, il y aura de moins en moins de coachs en séduction qui vont apparaître parce que les gens en ont eu... Il y a deux choses. Déjà, les gens ont été ennuyés par les approches, les vidéos d'approche classiques. Ça a été fait et refait. Donc, soit tu arrêtes les vidéos classiques, soit tu fais des vidéos où... où tu montes le niveau, soit tu montes le niveau en fait, soit tu fais autre chose. Donc moi j'ai monté je me targue un peu d'avoir.
Explique un peu comment les vidéos que tu fais sur la chaîne, comment est-ce que tu as un peu changé ce modèle des vidéos d'approche?
Et ben moi le but ça a été de. Au départ c'était du second degré, je voulais leur dire, c'était un peu pour me moquer d'eux et leur dire vous prenez la tête sur des techniques et vous voyez que. Moi, j'y arrive en disant n'importe quoi. Et après, en fait, je me suis rendu compte, même moi, je ne savais pas ça, en fait. Je me suis rendu compte que le fait de faire des approches créatives, alors j'explique aussi peut-être un peu ce que sont les approches créatives. J'ai un concept sur ma chaîne, ça s'appelle « J'applique la technique de drague 2 ». Et derrière le 2, je vais mettre un YouTuber connu, un principe un principe d'actualité. Alors pour donner des exemples, là quand il y a eu l'affaire Jean-Claude Van Damme sur On n'est pas couché, je me suis empressé d'aller appliquer la technique de drague de Jean-Claude Van Damme.
Est-ce que tu peux me faire une toute petite parenthèse? Je n'ai pas suivi cette affaire. C'était quoi l'affaire Jean-Claude Van Damme? Aussi utile, non mais c'est pour moi et aussi pour les gens qui dans le futur nous écoutent et ne se souviennent plus de quoi il s'agit. Et après tu peux nous dire comment tu en as fait une vidéo.
Alors Jean-Claude Van Damme, il est passé sur On n'est pas couché face à Ruquier et il s'avère qu'il y avait Marlène Schiappa dans l'eau. Et Jean-Claude Van Damme est réputé pour être assez spontané et parfois avoir un discours un peu cru. Et il a lâché. Donc Marlène Schiappa expliquait en quoi les hommes et les femmes, c'était être une femme, c'était pas tous les jours facile. Que dans la rue, on l'a rappelé. Elle se faisait régulièrement rappeler à sa condition de femme. Et là, en fait, t'as Jean-Claude Van Damme qui a sifflé. Donc il a fait. Tu vois, d'un air choqué. Et il a été choqué parce qu'il explique, écoute, il y a des hommes qui veulent être des hommes, des femmes qui veulent être des femmes. Il a donné sa théorie sur la famille, sur le fait que pour lui, il faut qu'une femme reste à la maison, que Marlène n'aurait pas à imposer à des femmes à aller travailler. Il est allé encore plus loin, il a vraiment fait du Jean-Claude Van Damme puissance 10, puisque quand Marlène Schiappa lui a demandé « Et qu'en est-il du mariage gay et des hommes qui restent à la... » et des hommes qui se marient entre eux, il a fait semblant de ne pas comprendre ce qu'elle disait. Donc il disait « Deux hommes, quoi ? Deux hommes qui se marient ?» Tu vois, et c'est hyper drôle, tu vois. En fait, ce qui était drôle, c'était que le mec, il était... Il se comportait exactement comme le français moyen, ou bah lui il est belge, mais comme le type moyen sorti de son PMU, tu vois. Et ça, on n'a plus l'habitude de voir ça à la télé. Donc, bon, j'en ai fait en plus une vidéo pour expliquer à quel point j'étais content de voir un gars qui parlait librement comme ça, la liberté d'expression. Et après, cette vidéo-là que j'avais faite sur Jean-Claude Van Damme pour parler d'une vidéo théorique, donc elle a fait plus de 100 000 vues, 120 000 vues.
Ouais, 129.
Ce qui est pas mal pour le nombre d'abonnés que j'ai. Et après, je me suis dit, bon, bah, direct, on va tester, on va aller faire la technique de drague de Jean-Claude Van Damme. Et la technique de drague de Jean-Claude Van Damme, donc ça consistait à reprendre 2-3 conneries qu'il avait sorties durant son passage à On n'est pas couché, et les choses qui sont connues comme étant du Jean-Claude Van Damme, donc de l'eau, il n'y en aura plus dans 20-30 ans, tu dégages de bonnes vibes, des vibes love, et donc je vais voir une fille et je lui sors toutes ces conneries-là. Et donc c'est extrêmement difficile, en fait, parce qu'il faut arriver, à rassurer la fille, parce que tu es quand même en train de lui sortir des trucs un peu sortis de nulle part. Il faut la rassurer, mais en même temps lui donner envie de t'en voir.
Parce que la vidéo n'est réussie que si à la fin elle te donne son numéro de téléphone.
Voilà, voilà, c'est ça, c'est validé que si elle donne son numéro de téléphone, ou alors des fois, je l'avais fait de temps en temps, je lui dis que c'est une caméra cachée, on en discute ensemble, je lui demande ce qu'elle en a pensé, et les retours sont toujours bons. Elle dit qu'elle trouve ça original, que c'est marrant, parce qu'on a envie d'apprendre à connaître le personnage, tu vois, ça suscite énormément la curiosité. Et ouais, c'est ça justement, ouais, la force des approches créatives, c'est qu'en fait, elles sont extrêmement marquantes, elles sont très clivantes déjà, parce que tu peux recevoir un énorme malaise où la fille elle comprend rien et elle se casse, ou alors si elle comprend le second degré et qu'elle est plutôt maligne du coup et qu'elle joue avec toi, alors là c'est une interaction parfaite. Ce sont des très belles interactions, mais qui requièrent énormément de concentration. C'est comme de l'improvisation, en fait. Tu te donnes un thème et t'improvises autour.
Et tu dirais qu'il faut pour faire une vidéo comme ça, comme la technique de drague de Jean-Claude Van Damme, qui soit marrant à regarder, où il y a un bon feeling qui passe, il faut que tu testes combien d'approches ?
Alors, il y en a qui sont plus simples que d'autres, donc je ne vais pas te mentir, il y en a, il m'en a fallu... Il y en a que j'ai jamais réussi, d'ailleurs, faut le dire, hein. Il y en a que vous n'avez jamais vu, parce que j'ai jamais réussi à les tourner. J'avais prévu d'en faire une... Bon, c'est des délires un peu précis, donc je vais peut-être pas le dire. Je pense pas que les gens connaissent, mais je dirais que.
Dis-le, si les gens connaissent, ils seront gratifiés. Si les gens connaissent pas, ils se sentiront pas coupables.
Alors, c'est pour ceux qui connaissent un peu la dissidente sphère. Il y a Raptor Dissident qui a eu des embrouilles avec Alain Soral, et ils avaient prévu de faire un combat de MMA. Et ouais, non, c'est hallucinant, cette histoire, et ça avait fait un gros buzz. Ça avait fait un petit buzz dans la communauté, un peu ce qu'on pourrait appeler la fachosphère, la dissidentsphère. Et moi, pas mal de mes abonnés connaissent un peu ça. Et donc, il faut leur faire plaisir, il faut leur donner, il faut donner du pain à la plèbe, comme on dit, et puis surtout surfer sur le buzz. Donc, je me suis dit, allez, on va aller tester la technique de drague de Raptor versus, du combat Raptor versus Soral. Et donc, j'allais dans la rue, j'avais des gants de boxe MMA autour du cou. Et je me faisais passer pour Raptor et je disais que je devais organiser un combat MMA et que... Non, pardon, je me faisais passer pour Soral, donc je racontais l'histoire comme quoi Là, j'avais un combat dans 15 minutes et je leur demandais si elles n'avaient pas croisé un kabyle d'un mètre 70 très musclé, parce que c'est la description de Raptor. Et les filles, alors ça n'a pas fonctionné, sauf sur une, mais ce n'était pas filmé, donc malheureusement, on n'a pas pu la faire. Et là, le buzz, il est passé, donc ça ne sert plus à rien. Donc il y en a quelques-unes que je loupe, hein, faut le dire, hein, il y en a quelques-unes, je n'arrive pas à les faire. Et soit dit en passant, j'ai des philogynes de mon club qui ont réussi à la faire, contrairement à moi, donc j'ai dit chapeau. Mais sinon, pour celles que tu vois sur YouTube, je dirais en moyenne, il m'en faut 3 avant. Ouais, peut-être 2 ou 3. La Jean-Claude Van Damme, en l'occurrence, c'était la première. On l'a tournée en. Ouais, il a fallu même pas 3 quarts d'heure, une demi-heure, 3 quarts d'heure. Le temps de la trouver puis de la faire, ça a pris une demi-heure, 3 quarts d'heure. Il y en a, il me faut toute une après-midi. Et à de rares occasions, il y en avait une où il a fallu que je revienne une autre fois, parce que la première fois, ça n'avait pas marché. Donc 3 ou 4 tentatives en moyenne, ouais.
Et dans ce cas-là, d'un point de vue logistique, tu as une deuxième personne qui vient avec toi pour filmer ?
Ouais, j'ai un membre du club qui vient filmer avec moi. Et puis, bah, il est content parce que ça, il peut voir aussi que bah, c'est ça le truc, c'est que sur YouTube, on met ce qu'on a envie de mettre. Mais je me cache pas non plus de me prendre des râteaux, mais ça fait du bien aux gens de voir que leurs, entre guillemets, idoles, leurs idoles se prennent aussi des râteaux. Moi, je m'en prends encore des râteaux. Voilà, donc c'est rassurant pour eux.
Donc c'est vraiment intéressant comme concept, parce que du coup tu peux surfer sur le buzz en liant ça à chaque fois, et tu peux presque lier n'importe quel buzz qui peut exister, n'importe quel youtubeur. Tu pourrais demain, si tu veux, faire la technique de drag de Marketing Mania easy, tu vois. On pourrait trouver 5 manières de le faire et tu peux surfer sur n'importe quel buzz et le lier à ta thématique, quoi.
Vas-y, on fait un brainstorm, si tu veux. On essaie de trouver quelles sont les caractéristiques de Stan Leloup. Comment est-ce que je pourrais imiter... En fait, il faudrait que je trouve les mots que tu utilises souvent, ta manière de parler, tu vois. Alors après...
Faut que tu parles très vite et que tu bouges beaucoup les mains.
Après, c'est... Toi, c'est difficile parce que t'es pas facilement caricatural, en fait. T'es difficile à caricaturer. T'es plutôt déjà parce que t'es pas j'ai envie de dire t'es pas hyper clivant, t'es tout le monde t'adore, en fait, je crois. j'ai pas l'impression que tu reçois des messages de haine, tellement ce que tu dis c'est stylé. Alors que les mecs que je fais en vidéo, ça peut être des gens que j'adore ou que j'aime pas, hein, mais peu importe, mais ils ont en général un côté ils ont un truc vraiment un peu extrême, genre caricatural. Par exemple, on parlait de Jean-Marie Corda. Jean-Marie Corda, ça serait un plaisir de le caricaturer.
Donc on en parlait, mais hors ligne. Donc Jean-Marie Corda, j'avais fait un podcast avec lui. C'est un gars qui il est acteur porno et puis aussi, il est aussi coach sexuel. Et il était passé sur mon podcast et puis il est aussi assez connu sur YouTube.
Et lui, ouais, il a un personnage. En fait, c'est ça. C'est les gens qui ont un véritable personnage. Et c'est très facile de les... Moi, j'ai caricaturé Autodisciple, qui est un coach en développement qui fait du développement personnel, qui a un côté très baba cool, très vegan, très très nonchalant. Il a des délires assez chelous. J'ai caricaturé Efkan Kurnaz, qui est un youtubeur qui parle beaucoup de musculation et qui a une prosodie incroyable. Il parle extrêmement bien, il a des expressions très très colorées, très imagées. Voilà, il y en a.
Usul,
bah ouais, alors Usul, c'était de la vraie caricature aussi, c'est facile à caricaturer, hein, suffisait de se la jouer féministe.
Ok, du coup, c'est intéressant de creuser là-dessus, parce que c'est aussi un sujet auquel moi je réfléchis par rapport à YouTube, que j'avais fait une vidéo dessus qui s'appelait le biais de négativité. Ironiquement, une vidéo qui avait bien marché pour un truc aussi technique. C'est l'idée que les gens aiment bien cliquer sur les choses où il y a un contre-pied, en fait. Il y a un positif et il y a un négatif. Et là, en fait, tu prends des personnages qui soient un peu clivants, ou a priori, tu te dis ça devrait pas marcher, ou alors des personnages que j'apprécie pas forcément. Et du coup, tu combines ça avec un truc que j'ai envie d'apprendre, la technique de drag, parce qu'on suppose que si je clique sur la vidéo, c'est que je suis intéressé par ça. Et tu combines un peu ce truc mauvais et ce truc bien, et ça fait une espèce d'alchimie où les gens ont envie de cliquer dessus. Et en fait, c'est la même chose que moi, je fais quand je fais les techniques de persuasion du loup de Wall Street. C'est « Ah putain, moi j'ai envie d'apprendre la persuasion. » En même temps, le loup de Wall Street, c'est un connard, c'est un arnaqueur, donc c'est pas bien. Et c'est beaucoup plus efficace de faire les techniques de persuasion d'un mec comme ça, clivant comme Loup de Wall Street, que de faire les techniques de persuasion du Dalai Lama que tout le monde aime. Quoique les techniques de persuasion du Dalai Lama, ce serait pas une mauvaise vidéo. parce que tu combines du coup le truc de Dalai Lama qui est bien et le truc de persuasion qui du coup ici prendrait une connotation un peu négative.
C'est un contraste en fait, c'est ça, c'est une association qui est nouvelle, qui est, c'est une association qui est originale. On n'a pas l'habitude d'associer ces deux éléments-là, donc c'est rigolo. C'est ça l'humour, il y a une forme de surprise. C'est la surprise qui découle d'une association qui est différente, qui est originale, tu vois. Alors, je voulais juste dire, par contre, je ne fais pas au hasard au-delà des trucs des vidéos buzz, où je vais surfer sur un buzz, les noms des youtubeurs ne sont pas pris au hasard. Il faut comprendre que ces youtubeurs-là, ce sont souvent des youtubeurs qui ont des communautés très parallèles à la mienne. Moi, je sais que dans ma communauté, il y a des gars qui regardent des vidéos. Je savais qu'il y avait derrière qui regardaient des vidéos d'Efkan Kurnaz. Je sais qu'il y avait des gars qui regardent des vidéos de Raptor Dissident. Et donc, en fait, si tu veux, ces gens-là... Je leur donne quelque chose qu'ils ont envie d'entendre, mais aussi je sais qu'il y a plein de mecs qui regardent Raptor Dissident qui ne connaissent pas encore ma chaîne mais qui sont des potentiels abonnés à ma chaîne. Donc en faisant cette vidéo là non seulement je vais être porté par les quelques abonnés que j'ai qui aiment Raptor, mais qui en plus vont la partager peut-être à leurs copains qui sont sur la chaîne du Raptor, et en tout cas les mecs du Raptor quand ils vont voir ça ils vont c'est un moyen de les faire venir. Donc je fais toujours ça avec des youtubeurs qui sont soit des communautés adjacent, parallèles, oui. Adjacentes, voilà, ou alors au contraire, on se crée un ennemi en commun. Donc Usul, c'est un peu un ennemi en commun que ma communauté a. Marion Séclin, c'est un peu un ennemi que toute ma communauté a. Tu vois, quel est le meilleur moyen de rapprocher une population? Je crois que c'était Gustave Lebon qui en parlait dans Psychologie des foules. Le meilleur moyen de souder une population, c'est de lui donner un ennemi commun. Et on en rit ensemble, on rit ensemble de cet ennemi commun. Et à chaque vidéo, on ressoude encore plus les liens de la communauté parce qu'on se dit, ah ouais, on a vraiment les mêmes amis et on a vraiment les mêmes ennemis. Et ces amis-là, on va chercher leur communauté.
On peut parler un peu de ce concept de communauté. Moi, j'avais fait une vidéo, j'avais un peu réfléchi à ce sujet, j'avais fait une vidéo qui s'appelait le marketing de tribu. J'essayais de réfléchir à comment est-ce que tu pouvais construire un business autour d'une tribu, notamment parce que j'utilise le terme tribu de manière délibérée en référence au biais de tribalisme et à cette idée que il y a un aspect d'évolution et de psychologie qui a été formé dans notre évolution et dans notre histoire qui fait qu'on cherche les tribus et on cherche à former des groupes qui sont opposés à d'autres groupes. Toi, tu as justement le club, donc le forum et toute la communauté qui se trouve autour. Est-ce que tu peux expliquer un petit peu quel est le rôle de cet aspect de communauté et de tribu dans ton business aujourd'hui?
Ah ben alors c'est exactement ça, on est une tribu. On est la tribu, si tu veux, des... Il y a deux aspects à la tribu Philogene, c'est le côté intello. Donc on est la tribu des gars intello, ça veut dire on n'a pas juste envie de recevoir des conseils drague comme ça, fais comme ci, fais comme ça. On a envie de comprendre en profondeur qu'est-ce que la femme, la psychologie de la personnalité, on a envie de comprendre la psychologie évolutionniste. Donc déjà, on est la tribu, entre guillemets, on pourrait dire des petits malins, quoi, des intellos.
Et donc là, tu te poses en opposition, du coup, parce que c'est intéressant de définir un groupe par rapport à l'out-group, donc le contre-groupe, on peut dire. Et dans ce cas, tu te poses en opposition au clone de la drague.
Ouais, c'est ça, c'est les clones de la drague ou alors les petits écoliers de la drague. Les petits écoliers, pour moi, c'est ceux qui prennent des notes mais qui reproduisent mais sans jamais se poser trop de questions, quoi. Ils sont là, ils sont assidus, ils vont à leur cours mais ils se posent pas des questions existentielles, j'ai envie de dire. Et la deuxième caractéristique du Philogene, c'est son côté dérision, créatif, humour, improvisation. Voilà, on est là parce que notre tribu, c'est une tribu de tchatcheurs, en fait. On aspire à devenir des tchatcheurs. On n'aspire pas à devenir à trouver une copine, par exemple. C'est évidemment, on a tous envie d'avoir une copine, et ça arrive, mais ce sera un accident. C'est pas l'objectif qui nous pousse à sortir dans la rue et à faire ces approches créatives. C'est surtout de développer notre tchatche. Le mot, c'est vraiment la tchatche et la créativité. Donc, et le contre-groupe, ça serait le mec qui court après une copine dans la rue, quoi, qui cherche désespérément sa copine, quoi.
Donc tu partages un objectif, tu partages un ennemi, tu partages une vision, quoi. Et ça, dans quelle mesure est-ce que cette communauté, elle est centrée sur toi en tant que personne? Et dans quelle mesure est-ce que le leader est important à la cristallisation de cette communauté, à ton avis et dans ton expérience personnelle?
Bah moi, en fait, je monte l'exemple avec de toute façon, la phylogénie, c'est vrai que c'est un peu schizophrène, parce que tu as le côté théorique avec la psychologie, et tu as le côté un peu plus bourrin, créatif, dans la rue. Donc c'est vrai que ça peut prêter à confusion. Mais moi, dans le côté créatif, je monte l'exemple. Donc je vais sur le terrain, je leur fais une approche marrante, je la fous sur YouTube, ou alors on en discute ensemble dans les réunions Discord. Je monte l'exemple. Je suis le premier à y aller, je suis le premier à tester. Alors régulièrement d'ailleurs, je leur invente plein de... Ah oui, ça je ne l'ai pas dit, mais sur le forum, je leur invente de manière hebdomadaire une nouvelle technique, des techniques totalement farfelues, juste pour qu'ils aillent s'amuser, pour qu'ils aillent s'entraîner leur improvisation, etc. Et ensuite, concernant l'aspect psychologie, moi la psychologie c'est mon domaine, je connais peu de choses dans la vie, mais la psychologie, je connais très bien, c'est ma passion, donc je me considère comme dans le club l'expert de la psychologie. Donc j'ai ce côté, je suis le vulgarisateur de la psychologie. En fait, je fais le pont entre la psychologie, mais je te parle, bah, la même psychologie que toi tu utilises, c'est un peu pareil. Donc la psychologie scientifique. La psychologie expérimentale, et je fais le pont avec la séduction, et je vulgarise en fait cette psychologie expérimentale pour la traduire, pour l'utiliser dans le domaine de la séduction, ou dans le domaine de la compréhension des femmes, ou alors dans le domaine du féminisme, pour comprendre en quoi le féminisme c'est de la connerie. Et
explique un peu pourquoi le féminisme c'est de la connerie, parce que je pense qu'il y a une partie des gens qui vont se bloquer sur cette phrase.
Tout simplement, je te le fais très rapidement, le féminisme part du principe que refuse de voir le fait qu'hommes et femmes soient différents, et pas que physiquement, parce qu'on est aussi différents cognitivement. On n'a pas le même cerveau, on n'a pas la même manière de réfléchir, on n'a pas les mêmes préférences sexuelles, on n'a pas les mêmes intérêts professionnels. Et contrairement à ce qu'on veut nous faire croire, ces choses-là ne sont pas le fruit d'une construction sociale. Pas seulement le fruit d'une construction sociale. Il y a effectivement de la construction sociale. Ça veut dire construction sociale, ça veut dire que on a un petit peu poussé les garçons à jouer d'une certaine manière, les petites filles à jouer d'une autre manière. On attend d'un homme qui soit masculin et d'une femme qu'elle soit féminine. C'est vrai, il y a un peu ça. Mais la grosse partie qui explique les différences qu'on voit aujourd'hui entre les hommes et les femmes. Le fait qu'il y ait beaucoup de femmes infirmières, qu'il y ait beaucoup d'hommes ingénieurs, le fait que les hommes soient plus violents que les femmes, le fait que les hommes gagnent plus que les femmes, gagnent plus d'argent en entreprise que les femmes, tout ça, ce sont le fruit de différences en termes de traits de personnalité, de manière de fonctionner, qui sont en fait innées, génétiques. Et il y a des études qui montrent que dès la naissance, déjà, nos intérêts varient. Enfin, nos intérêts sont différents entre les hommes et les femmes. Tu montres à une petite fille une poupée et un camion, elle va préférer la poupée. Et ce dès quelques jours après la naissance. C'est pas juste 9 mois après, c'est vraiment dès la naissance. Et le petit garçon va préférer jouer avec le camion. Et ça, il y a plein d'études qui montrent ça. C'est quelque chose qui est admis, qui est indiscutable en psychologie. Je veux dire, il y a plein d'études qui le montrent. Moi, j'ai lu des bouquins ou des articles scientifiques de féministes, des psychologues féministes, qui avouent qu'il y a cette part-là, cette part génétique, cette part biologique qui est extrêmement importante. Même si, effectivement, il y a une influence culturelle. Donc, nous, les phylogènes, tu me demandais aussi tout à l'heure quel est notre ennemi, et non, tu disais pas ennemi, le contre-groupe. Bah, le contre-groupe, c'est ceux qui pensent qui veulent nous faire croire qu'hommes et femmes sont pareils. Et donc, si tu penses qu'hommes et femmes sont pareils, il faudrait parler à une femme de la même manière que tu parlerais à un homme, ce qui est faux. Tu veux séduire une femme, tu ne peux pas lui parler de la même manière que lorsque tu parles à ton meilleur ami. Donc nous, on utilise ces connaissances qu'on a de la psychologie pour remettre en cause cette idéologie dominante qui est aujourd'hui le féminisme, et comprendre en quoi ça nous a porté préjudice, parce que c'est pas anodin s'il y a une corrélation aussi forte entre féminisme et présence de coachs en séduction en ligne. C'est pas anodin, c'est qu'il y a un lien, tu vois.
Et du coup, tu vois, c'est des idées là qui sont essentiellement qui sont compliqués à mentionner dans les médias, donc c'est un truc qui est très marginalisé. Est-ce qu'il y a un peu un côté persécution, où nos idées sont interdites, nos idées sont reléguées dans les coins, donc nous, on a raison et le mainstream média a tort.
Tu veux dire, est-ce que j'en joue d'un point de vue marketing?
Est-ce que c'est une tendance que tu sens dans ta communauté? Est-ce que c'est quelque chose dont toi tu joues niveau marketing?
Oui, c'est vrai, c'est vrai. C'est-à-dire que y a toujours les deux en fait. Si tu regardes bien, il y a toujours. Je mens jamais, mais par contre, je sais utiliser. J'arrive à. J'essaye, en tout cas, je m'efforce de comprendre ce que veulent les gens. Et il y a une population. Pour être clair avec toi, donc des hommes de droite, en l'occurrence plutôt, qui rejettent ces valeurs du féminisme, cette population-là n'a pas été, n'est pas, n'était, avant que j'arrive, en tout cas, n'était pas servie par des coachs en séduction. Personne ne s'adressait à eux. Et si je suis encore plus précis, pour te donner un exemple plus concret, je peux même te parler d'une certaine communauté, par exemple, hein, c'est pas que cela, mais on pourrait parler des individus, des hommes du 18-25, le forum jeuxvideo.com, qui est souvent dans beaucoup de polémiques. Et
Donc
c'est.
ça correspond à quoi? Parce que moi j'ai déjà entendu le nom, mais le modèle mental dans ma tête ne clique pas. Donc c'est décris-moi un peu l'avatar client du 18-25.
Alors, 18-25, c'est un gars qui est plutôt. Qui rejette l'idéologie dominante. C'est le plus gros forum de France, hein, le 18-25. C'est le plus gros forum de France, jeuxvideo.com. Et c'est un type de droite, quasiment toujours, on peut être sûr que c'est un mec de droite, qui rejette l'idéologie dominante, qui en a ras-le-bol du féminisme, et qui a une certaine colère contre le féminisme et contre les femmes aussi. Alors après, il y a des comportements parfois qui peuvent être extrêmes, mais c'est une grosse population d'hommes qui s'intéressent à la séduction. Ils se posent beaucoup de questions en termes de psychologie féminine. Parfois, ils vont même bien plus loin que les fameux coachs en séduction. Ils posent des questions bien plus intéressantes. Et ces gens-là, le problème, c'est que ces gens-là, ils ont de la colère. Et donc, on va les traiter de fachos, on va dire que on va dire qu'ils se positionnent en tant que victimes, et qu'ils ne font que râler et insulter les autres. Et le truc, c'est que moi, je me suis dit, on va essayer de leur apporter quelque chose pour eux. On va essayer de servir ces gens-là aussi. Et chose que personne n'avait faite avant. Et je vais répondre à leur colère.
Et qu'est-ce que tu en fais du coup de cette colère?
Bah, cette colère, je leur, moi, je, moi, cette colère, d'une certaine manière, je peux l'avoir aussi parce que je sais réellement ce que c'est aujourd'hui que d'essayer de rencontrer des femmes en France, notamment à Paris, dans les grandes villes. C'est difficile. Les femmes sont très exigeantes. Les femmes ont certains avantages. On nous fait croire, à nous les hommes, que c'est difficile d'être une femme, alors qu'en fait, il y a un énorme décalage entre ce qu'on nous fait croire et ce qu'on voit nous au quotidien, à savoir que rien qu'au niveau de la séduction, c'est quand même bien plus facile d'être une nana. On ne se fait pas inviter dans les boîtes de nuit, on ne se fait pas inviter à boire un verre, on n'est pas dans l'abondance. Un homme puceau, c'est pas classe, alors qu'une femme vierge, c'est un côté pur. Et donc, bah, cette colère-là, moi, je l'acquiesce. Enfin, je comprends qu'elle existe. Et j'explique pourquoi elle devrait exister, d'ailleurs, pourquoi c'est normal qu'elle existe. Maintenant, j'essaye d'apaiser quand même cette colère pour pas que ça tombe dans. Faut pas que ce soit non, faut pardonner en fait. Faut avoir de la colère, mais faut pardonner et faut utiliser cette colère pour. C'est bien d'utiliser cette colère pour remettre en question ce qu'on nous a appris et pour utiliser de l'esprit critique pour essayer de comprendre certaines choses. Mais la finalité, ça doit être le pardon.
Mais du coup, qu'est-ce que tu pardonnes dans cette situation?
Je pardonne le fait que les femmes soient différentes biologiquement de moi. Et c'est ça le paradoxe, c'est que ces mecs-là, ils peuvent avoir de la colère.
Mais en quoi c'est du pardon? Parce que le fait qu'elles soient différentes ou non, tu vois, en quoi est-ce que c'est du pardon et en quoi est-ce que ça justifie la colère? Et où est-ce que la colère joue son rôle dans le fait de s'intéresser à la séduction? Parce qu'il me semble que si tu es en colère là-dessus, ça serait contre-productif. Moi, du coup, j'y pense notamment en termes d'analogie marketing. C'est, tu vois, les gens qui sont « Ouais, mais de toute façon, les riches, c'est tous des pourris et il faut avoir des parents riches pour réussir, etc. » Bon, ces gens-là, numéro un, ils ont tort. Mais je connais plein de gens qui ont réussi en partant de zéro. Et fondamentalement, franchement, si tu fais du business en ligne, en général, c'est pas ton père qui va t'apprendre les bases d'une. Mais tu vois, ils partent d'une position qui est tellement d'auto-victimisation qu'au final, ils vont jamais faire les sacrifices qui sont nécessaires pour arriver à leur objectif, en tout cas à l'objectif qu'ils expriment, parce que en fait, ils se sont donné une excuse tellement pratique de pourquoi ils réussissent pas et que c'est la faute des autres, qu'au final, ils n'arrivent jamais à faire l'action.
Eh ben, c'est justement ce que j'essaie de pas les encourager à faire. Tu me donnes l'exemple du mec qui se positionne en tant que victime en disant « Moi, mes parents n'étaient pas riches. » Mais ça va te permettre aussi de remettre en question le discours de certains, peut-être marketeurs ou coach en développement personnel qui vont t'expliquer que tout le monde peut faire n'importe quoi, il suffit juste d'appliquer telle technique. Donc, cette colère de se dire c'est plus facile pour les mecs qui viennent d'une famille riche va te permettre de remettre en question ce que disaient les coachs. Et tu vas avoir une vision beaucoup plus nuancée. C'est-à-dire qu'effectivement, quand tu viens d'une famille riche, c'est plus simple. C'est évident que c'est plus simple. Maintenant, il y a aussi des mecs qui viennent de familles pauvres. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait pour devenir riches? Tu vois, tu es conscient que c'est plus simple quand tu viens d'une famille riche. Mais d'une certaine manière, tu en tires aussi de l'orgueil. Tu te dis, moi, j'ai pu réussir alors que je venais d'une famille pauvre. Donc, ça veut dire que j'ai pédalé encore plus vite que les mecs qui venaient d'une famille riche. Parce que j'étais pas avantagé. Tu vois ce que je veux dire? Il faut accepter le fait que certains soient avantagés, que tu vas devoir fournir plus de travail, mais que c'est pas impossible. Tu vois, mais
c'est... Donc, c'est un autre bloc de construction en matière de communauté. Quoi. C'est un autre élément qui nous différencie de la masse.
De quoi, pardon ?
Cette idée que, oui, on a été défavorisé ou on a un certain désavantage et on va ensemble le dépasser ou trouver des moyens d'aller au-delà.
Voilà, exactement. Moi, si j'avais une chaîne de marketing ou devenir riche, je dirais aux gens, ouais, c'est plus simple quand tu viens d'une famille riche. Parce que tu donnes les raisons, tu fais un truc objectif, et après, tu expliques, ouais, mais il y a aussi des gars qui arrivent en venant de famille pauvre, c'est plus dur, il y en a moins, il n'y en a pas beaucoup, mais ils ont fait ça. Et y a autre chose aussi, c'est que quand tu dis la vérité aux gens, c'est aussi pour ça que je reconnais leur colère, c'est que quand tu dis la vérité aux gens, quand tu es honnête, ils te font confiance derrière. Et moi, je m'efforce à ne jamais mentir. Et tu vois, il y a eu beaucoup de mensonges de la part des coachs en séduction, notamment le fait que tout le monde peut plaire, peu importe son physique. C'est faux, le physique joue. Le physique joue dans la séduction. D'ailleurs, cet exemple-là, c'est l'équivalent de ce que tu me donnais aussi. Hein, c'est le physique joue. Les beaux gosses plaisent aux femmes. Pourquoi ? Il faut expliquer pourquoi derrière. Mais comment font les gens qui ne sont pas beaux gosses? Parce qu'il ne faut pas non plus être débile. Il n'y a pas que des beaux gosses qui transmettent leurs gènes. Sinon, on se retrouverait dans une société de gens qui feraient tous 1m90 et qui auraient tous la même gueule que Brad Pitt. Mais il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ça. Et aussi, reconnaître que les beaux gosses chopent, ça permet aussi d'être lucide par rapport à toi, ton propre physique. Comment tu fais pour séduire malgré le fait que tu n'aies pas un physique avantageux? Ce sera une stratégie différente. On ne séduit pas de la même manière que si on est moche ou que si on est lambda ou que si on est beau gosse. Tout comme on ne séduit pas de la même manière si on est intelligent, si on est débile. Par exemple, si tu es débile et beau gosse, va dans des boîtes de nuit ou va sur Tinder. Tu vois, si tu es beau gosse mais que tu ne sais pas parler, si tu n'as pas de chat, va sur Tinder. Et je ne dis même pas ça de manière ironique ou cynique, hein, c'est réellement le cas. Si tu parles bien, moi je connais des gars, ils parlent bien, ils sont intelligents et ils vont draguer en boîte de nuit. Mais j'ai dit, mais c'est totalement débile. Enfin, tu peux pas. Ta force, c'est la tchatch et c'est ton intelligence et c'est ta culture. Tu vas dans un milieu où c'est absolument pas valorisé. Ce qui est valorisé, c'est ta confiance en toi là-dedans et c'est ton physique. Donc c'est ridicule. Il faut trouver ta niche. Il faut trouver ta niche en matière de séduction, c'est important. Il faut être lucide.
C'est quoi la tienne?
Moi, la mienne, c'est... Alors déjà, c'est ma force, c'est la tchatch. plutôt le côté baratin, je pense être bon à baratiner les nanas dans la rue, à improviser, tout ça. Donc j'utilise Matchat. Je suis pas bon en boîte de nuit parce que parce qu'on m'entend pas. Voilà, donc voilà, petite citation. Mais donc c'est ça, c'est plutôt quand je dis la rue, oui, il faut que j'explique aux gens la rue. Pour moi, c'est tout espace public, donc ça peut être les Starbucks, la fac, enfin devant les facs, ça peut être les centres commerciaux, ça peut être dans un magasin, à la Fnac, ça peut être dans la boulangerie. Et moi, pour être plus précis, là où je suis bon, c'est au Starbucks. Et quand je retourne dans mon ancienne fac de psycho, dans la bibliothèque. Les deux raisons, pourquoi ? Parce que dans le premier cas de figure, au Starbucks, c'est une population très à la fois étudiante et start-up. Moi-même étant entrepreneur, et toi c'est pareil pour toi Stan, bah, tu connectes beaucoup plus facilement avec les gens parce que vous êtes tous les deux hors du salariat, vous êtes tous les deux en train de faire quelque chose un petit peu différent, en train de monter une boîte, donc ça crée des liens, ça crée de la connexion, et puis en plus c'est assez facile de parler aux gens, ils sont côte à côte. Et la fac de psycho, pourquoi ? Tout simplement parce que c'est très facile de draguer une étudiante en psycho, en première année de psycho, quand toi-même t'as un bac plus 5 en psycho. T'es un petit peu un modèle pour elle, donc c'est super simple. Par contre, je vais pas aller draguer dans des facs de mathématiques, voilà, ce serait ridicule. Donc l'étudiante, et puis l'étudiante en psycho, c'est souvent une petite nana un peu cultivée, donc mon discours sur la psycho, je vais pouvoir lui faire des petits cours magistraux sur la psycho, ça va l'intéresser. Une nana en boîte de nuit, elle en a rien à foutre de ma psycho, tu vois, de mes connaissances en psycho, elle s'en fiche. Donc faut être malin. Si t'es sportif, tu vas là où tu vas d'habitude, hein, je sais pas, si tu vas nager par exemple, tu vas à la piscine, tu vas pas pour draguer, mais tu sais que c'est ton marché niche parce que tu nages bien, c'est un milieu que t'aimes bien, tu vas être avec une fille qui aime bien ça aussi, probablement qu'elle aime bien, probablement que tu es musclé, tu es probablement musclé si tu nages beaucoup, donc elle va voir ton corps, donc tu mets en avant cet avantage-là. Tu vois, faut être malin. En fonction de tes forces, faut trouver les endroits où tu peux aller.
Je trouve ça toujours un peu maladroit et bourrin quand les gens disent « Ah, la séduction, c'est la même chose que le marketing. » Mais au final, c'est la même chose que le marketing, quoi. C'est la niche, le positionnement, savoir quelles sont tes forces, tes faiblesses, ce que t'apportes et à qui est-ce que ça plaît.
Exactement. Quelle est l'empathie aussi. Mets-toi à la place. Tu cherches pas à refourguer ton produit. Tu te mets à la place de l'autre et tu te poses la question. Qu'est-ce que veut la nana ? Qu'est-ce qu'elle recherche ? Que recherche une nana qui va dans un Starbucks ? Quel type d'homme elle aime ? On peut aller jusqu'à quelle relation elle recherche, mais c'est un peu différent. Mais ouais, quel est son type d'homme ? Tu vois, quel est le type d'homme d'une nana en psycho ? Ça n'a rien à voir. Et après, il y a les orientations politiques, il y a les traits de personnalité qu'on retrouve dans différents types. On pourrait faire des énormes tableaux Excel avec les différents types de nanas en termes de personnalité, d'intérêt, de QI, d'orientation politique, de religion, et en fonction des différents lieux, ou en fonction de certains attributs même physiques. On pourrait faire des trucs de dingue, en fait, là-dessus.
On va arriver vers la fin. Avant, je voulais te demander, c'est quoi comment est-ce que tu vois les prochaines années pour ton business ?
Alors moi, pour le business, j'aimerais faire une franchise, construire une franchise où en fait, il y aurait différents phylogènes dans toute la France, dans les grandes villes de France, qui utiliseraient la chaîne YouTube pour parler d'eux, pour parler de la méthode phylogène et expliquer que bah, y a des phylogènes présents à Lyon, à Marseille, etc. De faire une franchise de la méthode phylogène.
Avec du coaching à chaque fois, dans chaque ville ?
Voilà, il y aurait du coaching. Donc, ça serait des coachings, pourquoi pas, à plusieurs, pour le coup. Moi, je fais des trucs individualisés, mais pourquoi pas les apprendre à faire des trucs à plusieurs. Et ils auraient chacun leur statut auto-entrepreneur. Et aussi, ce seraient des mecs qui sont sur le club, qui sont évidemment phylogènes, donc sur le club phylogènes, et qui animeraient leurs propres réunions dans la ville. Moi, j'anime mes réunions à Paris. Eux, ils animeraient, il y aurait un phylogène référent à Lyon qui animerait toutes les deux semaines une réunion à Lyon.
C'est pas un modèle qui est proche d'une boîte américaine qui s'appelle RSD ?
Je connais pas très bien RSD parce que je regarde, j'essaie de regarder le moins possible ce que font les autres. Mais, okay. Mais ça serait, je sais qu'ils sont plusieurs, ils ont chacun, j'avais vu un peu, ils ont chacun leur chaîne YouTube où il y a écrit RSD Max, RSD Tyler, RSD avec son prénom, donc ça j'aime bien. Ouais, c'est un peu ce principe de franchise, et puis hein, ils sont chacun dans différentes villes, ils vont chacun faire des conférences. Ça serait un peu ça pour la France, à court terme pour la France. Et surtout, ce que je voulais te dire, c'est que j'ai un peu... J'ai une vision en fait, hein. Je ne sais pas si c'est possible, mais j'aimerais que chaque philogyne soit un psychologue. Et alors là, ça serait du très lourd, parce qu'on serait la première boîte en développement personnel avec que des psychologues. Mais le problème, c'est que c'est assez compliqué à mettre en place, parce qu'il faut les trouver, les mecs qui sont psychologues, ouais. J'ai envie de rentrer là-dedans. Donc je vais essayer de faire des annonces dans mon ancienne fac, je vais essayer de faire des vidéos des vidéos sur YouTube pour demander s'il n'y en a pas qui sont chauds, mais voilà, ça serait c'est une idée. Et à très long terme, après, ça serait de, pourquoi pas, d'aller faire ce qu'RSD fait chez nous en France, ce qui me désole, à savoir, nous, aller aux États-Unis, expliquer aux Américains comment ça se passe. Parce qu'après tout, la France, c'est le pays des French lovers, donc... C'est à nous, on a plus de conseils à donner, je pense, aux Américains que les Américains à nous. La séduction, c'est quelque chose de propre aux cultures latines, pas à la culture anglo-saxonne. Et d'ailleurs, moi, j'avais un peu critiqué indirectement les RSD en expliquant que leur stratégie pour séduire, ça n'a rien à voir avec nous. Eux, ils te donnent une stratégie qui fonctionne pour le monde anglo-saxon. Rien que, si tu veux, ils prônent le culte de l'extraversion. Et c'est très bien aux États-Unis, les gens sont très extravertis là-bas, sauf qu'en France, on n'est pas non plus introverti, mais il faut comprendre que l'extraversion n'est pas quelque chose d'universel pour plaire. On peut très bien plaire en étant introverti. Et ça, ça a rassuré beaucoup de prospects, beaucoup de gars qui se sont rendus compte qu'en fait, bah, pas besoin de devenir un clown, de singer les plus extravertis. De toute façon, ils perdraient. Tu perds à leur propre jeu quand tu essaies de devenir un extraverti alors que tu es toi-même introverti. Mais on peut devenir un introverti charismatique. J'avais fait une vidéo, toi tu connais Mad Men, bah, tu vois, Don Draper, c'est un introverti. Et pourtant, il est extrêmement charismatique. Tu vois le type, il est charismatique, il en impose, il est dominant. Mais c'est pas le mec qui est grégaire, qui est toujours entouré de plein de monde. C'est pas un mec extrêmement expressif émotionnellement. Il parle assez peu. Il parle assez peu et il est assez peu. On peut pas dire que c'est quelqu'un de très énergique. Et pourtant, il en impose et les clients l'adorent. Et il y a même ce côté rassurant. L'introverti a cette force que n'a pas l'extraverti, c'est que son côté posé lui confère un certain côté rassurant. Et c'est pareil en vente. C'est exactement pareil en vente. J'avais fait mon mémoire là-dessus. Le rôle de l'extraversion dans la performance commerciale, les meilleurs commerciaux, contrairement à ce qu'on pourrait penser, ne sont pas les extravertis. Ce ne sont pas non plus les introvertis. Ce sont ceux qui arrivent à jouer l'introverti quand il faut jouer l'introverti et jouer l'extraverti quand il faut jouer l'extraverti. Les meilleurs, c'est les caméléons. Et chacun a ses forces. L'extraverti, il est très bon lorsqu'il faut imposer son point de vue, lorsqu'il faut... ou alors lorsqu'il faut être assez captivant au téléphone quand tu prospectes, et l'introverti il est très bon pour rassurer, pour écouter l'autre, pour le rassurer, pour inspirer confiance. Et c'est un peu pareil dans la séduction.
Pour terminer l'émission, j'ai trois questions que je pose à tout le monde. Première question, c'est si tu pouvais revenir en arrière et donner un conseil à ton toi-même de 20 ans, qu'est-ce que tu lui dirais ?
Je lui dirais de pas être perfectionniste. De pas chercher à faire le meilleur produit du monde et ensuite après un an de réflexion de balancer le truc, c'est le grand événement. Je dirais de procéder de manière incrémentielle. J'ai passé énormément de temps à faire ma première vidéo parce que je voulais absolument que chacune de mes vidéos soit parfaite, soit à la virgule près. Alors j'aurais pu commencer beaucoup plus tôt, faire mes échecs beaucoup plus rapidement. Et de toute façon, quand t'es jeune, si tu me dis à 20 ans, bah à 20 ans, faut faire des erreurs rapidement, faut faire plein d'erreurs rapidement en fait. C'est 20 ans, c'est l'âge où tu fais plein de trucs, tu fais plein de conneries, et puis après, tu verras bien quoi. Donc procéder de manière incrémentielle, voilà, et ne pas avoir peur de faire des erreurs. C'est l'âge pour.
Deuxième question, est-ce que tu as un livre que tu recommandes souvent ?
En psychologie, ça sera différent, mais si, vu que toi, ta communauté, c'est le marketing, je vais donner quand même pour le marketing, j'ai adoré Vache pourpre de Seth Godin, parce que il t'apprend vraiment à ce principe d'être remarquable. Aujourd'hui, tous les marchés sont concurrentiels, en tout cas le mien, il l'est. Le seul moyen de s'en sortir, ça a été de faire la vache pourpre. Ça a été pour moi de faire... C'est lui qui m'a inspiré pour ce principe de vache pourpre. Je me suis dit, comment est-ce que les gens peuvent voir mes vidéos d'approche si c'est la même que tout le monde ? Bon, on va faire un truc bien coloré, bien extravagant, et comme ça, les gens vont nous repérer. Donc voilà ce que... Alors, je conseillerais vache pourpre. Après, si tu veux, comme tout à l'heure, on a parlé du féminisme, tiens. On a parlé du féminisme et de l'imposture du féminisme, qui nous fait croire que mes femmes sont exactement pareilles. Moi, je recommande de lire Cognitive Sex Differences de Diane Alpern. Cognitive Sex Differences, donc ça veut dire les différences sexuelles cognitives. Il est que en anglais. Et c'est un résumé, un énorme résumé de plein d'études en ce qui concerne les différences hommes-femmes, en ce qui concerne les différences cognitives hommes-femmes, donc c'est-à-dire les facultés cognitives, la mémoire, la concentration, l'intelligence, les différentes formes d'intelligence, le langage, etc. Et ce bouquin est extrêmement objectif, parce que c'est non seulement la directrice de l'APA, l'American Psychological Association, et de plus, c'était se revendiquer féministe. Et elle fait vraiment le tri entre les études qui montrent une influence culturelle sur les différences hommes-femmes et les études qui montrent que ces différences-là sont génétiques, sont biologiques, sont innées. Donc c'est pour justifier ce que j'ai dit tout à l'heure qui aurait peut-être pu choquer certaines personnes. Voilà.
C'est bien. Dernière question. Est-ce que tu as une citation ou un proverbe qui te vient souvent à l'esprit ?
Think outside the box. Ça veut dire « pense en dehors de la boîte ».
Super.
Et voilà, j'adore cette citation-là pour la créativité. C'est toujours ça pour la créativité. Quand tu veux arriver dans un marché, ne regarde pas ce que font les autres et te dire « comment je peux faire différemment ». Va regarder ce que font des gens qui font des choses qui n'ont rien à voir avec ton marché. Pour moi, c'est le meilleur moyen d'être créatif. Exemple, tu vois, je pourrais très bien regarder tes vidéos pour en choper des concepts, à la fois sur le contenu de tes vidéos, pour parler de la séduction, pour faire des analogies, mais je pourrais aussi voir comment toi, tu trouves des clients de manière totalement différente, peut-être, de comment les fameux coachs en séduction trouvent des clients. Mais on peut aller encore plus loin, parce que là, c'est du développement personnel, on peut même aller s'intéresser, je ne sais pas, moi, à des conférenciers, à des sectes, comment les sectes recrutent des gens. Enfin, tu vois, il faut aller chercher bien au-delà.
Le format à l'origine de mes vidéos était inspiré de chaînes américaines qui s'adressent aux gens qui veulent écrire des scénarios.
Bah voilà.
Qui analysent des films et des constructions narratives sur des scénarios. Notamment, il y en a une qui s'appelle Lessons from the Screenplay, que j'aime beaucoup. Il y en a une autre qui s'appelle Know You See It. Qui sont deux bonnes références qui font des analyses de ciné. Si vous allez voir ça et que vous comparez ça notamment à ma vidéo Dollar Shave Club dont on a parlé tout à l'heure, qui était une de mes premières vidéos, donc où le format n'était pas encore totalement maturé dans ma version, vous allez voir que c'est essentiellement très proche dans la construction, dans le rythme, dans la manière dont la musique est utilisée, et puis simplement dans l'idée de prendre quelque chose et de vraiment essayer de le découper, d'analyser comment ça fonctionne. Et voilà, c'est pour appuyer ce que tu dis par rapport à l'exemple. Et effectivement, je me suis pas vraiment inspiré des gens qui faisaient des vidéos de marketing, qui étaient en général un peu tous la même chose, où tu as une personne devant son écran qui donne ses conseils un peu en impro pendant 5-10 minutes, et puis c'est tout, quoi.
Yes, bah carrément, ouais, faut aller voir, pourquoi pas aller voir du côté du cinéma, des acteurs, même, tu vois, je reviens sur moi, mais par rapport à la chat, tu vois, la communication. Au lieu de s'inspirer des coachs en développement personnel, on peut aller voir comment les acteurs font pour parler, pour communiquer. Ils doivent avoir des exos, tu vois. Donc, je valide totalement.
Cool. On va s'arrêter ici. Merci, Léo, pour ton intervention. Récemment, je fais une petite série dans ce podcast où, 2 ans plus tard, je réinvite les gens pour voir comment ils ont évolué. C'est pour ça que je t'ai demandé ce que tu allais faire dans le futur et on verra d'ici quelques années si on peut se reparler de tout ça et voir à quoi ça ressemble 2 ans plus tard.
Ah bah très bien. Bah on verra si j'ai tenu ma parole. En tout cas, je te remercie beaucoup, Stan, parce que moi, je connaissais ta chaîne depuis très longtemps et tu m'as vachement inspiré, je tenais à le dire. Et c'était même un peu intimidant au début de se dire « Ah, je vais parler avec Stan Leloup », parce que je te connaissais quasiment au tout début, donc c'était vraiment un honneur.
T'as aussi connu au début de mon contenu et de ma chaîne YouTube, parce que Dollar Chef Club, c'est une vidéo qui remonte vraiment à un bon moment. C'était avant que je me mette vraiment à fond sur YouTube. C'était une vidéo test, c'était un prototype, la vidéo de Dollar Chef Club. C'est cool que tu aies fait référence à une vidéo aussi vintage, tu vois, parce que elle a plutôt bien marché au final, mais à l'époque où je l'ai sortie, il y a dû avoir quelques centaines de personnes qui l'ont vue, c'est tout.
Seuls les vrais s'en souviennent.
Ouais, c'est ça. Ça va être mon quiz pour savoir si les gens sont des vrais. Merci Léo, et on se reparle bientôt.
Ça marche, merci Stan, à plus.
Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. J'espère que vous en avez tiré des bons conseils, notamment si vous voulez donner des conseils aux gens, si vous voulez coacher les gens et que vous avez tout d'un coup découvert comment partir d'un truc concret, comment partir de vraiment parler à votre marché, quelles questions est-ce que vous posez pour comprendre quels sont leurs vrais besoins, quels sont leurs vrais désirs, quels sont leurs vrais blocages et comprendre comment est-ce que vous pouvez vous positionner dans un milieu où il y a déjà beaucoup de concurrents. Sur ce, moi, j'ai une chose à vous proposer. J'ai d'ailleurs 2 choses à vous proposer. La première, c'est que vous avez vu, je suis reparti sur un rythme régulier sur le podcast. Donc, si vous êtes quelqu'un qui a un business intéressant, un projet intéressant et que vous pensez que ça pourrait être intéressant de parler de ce projet sur les podcasts ou alors si vous connaissez quelqu'un qui peut être une personne intéressante à inviter sur le podcast, notamment si c'est quelqu'un qui sort un petit peu des sentiers battus du web marketing. Disons, on a eu il y a quelques semaines Christophe Hoppe, qui était quelqu'un qui était complètement sorti de ce moule-là, puisqu'il a une entreprise de montres de luxe en Australie. Donc, si vous avez des gens dans votre réseau, des gens que vous connaissez, vous dites, tiens, cette personne-là, elle a vraiment un truc intéressant à raconter, mais elle n'a pas trop de plateforme pour en parler, et ça pourrait être intéressant de l'avoir sur le podcast Marketing Mania. Envoyez un email à bonjour@marketingmania.fr. Je ne vous garantis pas qu'on prendra toutes les propositions, mais en tout cas, on va tout étudier en détail, on vous posera des questions, on essaiera de comprendre si ça peut être un bon fit pour le podcast Marketing Mania. Ceci étant dit, j'ai mon dernier petit appel à l'action. Évidemment, dans ce podcast, on a parlé de comment faire du coaching, comment trouver une audience, comment vous monter sur YouTube. Évidemment, moi, YouTube, c'est ma grande passion, comme dirait l'autre. C'est la plateforme qui, moi, m'a fait exploser. Bon, le podcast m'a aussi bien aidé. Essentiellement, la création de contenu, c'est mon dada. Et bien sûr, j'ai créé une formation gratuite sur le sujet qui s'appelle « Comment construire une audience qui achète ». On parle de comment trouver votre positionnement, comment vous différencier, comment créer du bon contenu, comment capturer des abonnés, comment construire une liste email et comment leur vendre des produits. C'est une formation qui est gratuite, qui dure 7 jours par email, que vous pouvez la trouver à l'adresse marketingmania.fr/audience. Sur ce, je vous remercie d'avoir été avec moi jusqu'au bout et je vous retrouve dans 2 semaines pour le prochain épisode du podcast Marketing Mania.